Notre critère principal, c'est l'engagement. Il y a 10 ans, quand on a commencé, ça s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait pas les marques engagées. Ça s'appelait rien, je crois. C'était le bio en cosmétique. Et voilà, nous, on a commencé avec une association qui s'appelle Boucle d'Ébène. Et c'est notre toute première cliente, Aline Tacit, qui voulait révolutionner le cheveu texturé. Qui voulait juste dire aux femmes, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, de pas vous lisser, de pas vous blanchir la peau. Et donc, l'engagement, ça a toujours été hyper important pour nous. Parce que c'est important à titre perso.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir un métier, celui d'attaché de presse beauté. Si vous êtes entrepreneur ou consommateur, vous ne connaissez peut-être pas très bien le rôle de ce maillon essentiel dans la découvrabilité d'une marque. Emeline Le Saout et Morgane Mine sont les fondatrices de l'agence Comme une bavarde, créée il y a 10 ans. Dans cet entretien, les deux associées nous parlent de leur début, des spécificités de leur métier, de leur agence et de ce qui les anime au quotidien dans leur mission. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster.
Bonjour Emeline.
Bonjour Chantal.
Bonjour Morgane.
Bonjour.
Alors, étiez-vous des passionnés de cosmétiques ?
Oui, clairement, je crois que c'est ce qui nous différencie et nous caractérise, puisqu'on s'est rencontrés à l'ISIPCA, l'école de la parfumerie et de la cosmétique de Versailles. Et donc Morgane plutôt sur la partie cosmétique et moi plutôt sur la partie parfum. Et clairement, ça a toujours été quelque chose qui nous a animés depuis très petite. Donc oui, la beauté, c'était pas un hasard, ça a toujours été une évidence.
Bon, et toi Morgane ?
Oui, bah, c'est ça, en fait, si on a choisi le Zipka, je crois que c'était parce qu'on aimait ça, voilà. De base, vraiment, on avait envie d'aller dans ce milieu où... Moi, ce qui m'intéressait le plus dans ce côté-là, dans la beauté, c'était le côté, c'est très... officiellement un peu superficiel et en vrai pas du tout. C'est-à-dire que on se sent bien une fois qu'on a tout le monde, on prend soin de soi, on se sent mieux. C'est l'exemple que je donne à chaque fois, mais je mets du rouge à lèvres rouge avant mes gros rendez-vous parce que ça me donne de la force et pas juste parce que j'ai envie de mettre du rouge.
Ouais.
C'est le côté qui fait appel à l'émotion et qui donne vraiment de la force parce qu'on prend soin de soi. Je trouve que pour ça c'était intéressant et c'est ça qui m'avait toujours plu sur la beauté. Donc voilà.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi de faire des RP dans la beauté, justement ?
Alors, la beauté, donc, c'est parce que c'est le milieu qu'on aimait. Et les RP, c'est parce que je crois qu'on a toujours aimé parler et raconter des histoires. Moi, les RP, je, comme tout le monde, je ne savais pas trop ce que c'était au tout début de mes études, parce qu'on pense à la pub, on pense au journalisme, mais pas entre les deux. Et j'ai découvert ça pendant un stage et ça a été un peu... par hasard, en fait, au départ. Ce qui m'intéressait dans cette agence, c'était plus la beauté. J'ai fait un stage et j'ai pu raconter des tas d'histoires de marques, parce qu'en plus, c'était des marques sur lesquelles il y avait vraiment plein de choses à dire. C'était passionnant. Donc, j'ai écrit tout en sachant que ce que j'écrivais était plus pour le côté on fait connaître une marque et son histoire, plus que pour le côté vraiment écriture. Et j'avais pas une âme de romancière.
C'était pas pour le consommateur.
Non,
quoi,
ouais. Non, c'était vraiment pour raconter et diffuser cette histoire-là en me disant c'est trop beau, j'ai envie que les autres le sachent. Donc, voilà.
D'accord. Et toi, Emeline ?
Et moi, c'est Morgane qui m'a parlé de ce métier. Donc voilà, on n'était pas encore associés. On était amis suite à la rencontre dans cette école. Et au départ, moi, j'étais très, comme tu le disais, Morgane, très pub.
Oui, toi, tu te destinais à la pub.
Je voulais plutôt faire de la publicité et de la communication parce que je voulais aussi raconter des histoires. Et en fait, quand elle m'a parlé du métier de RP, dont on nous parle pas beaucoup à l'école, en fait, je me suis dit, mais attends, ça correspond complètement à ce que je veux. Et surtout, ce qui était génial, c'était que j'allais avoir des intermédiaires, en l'occurrence les journalistes, qui étaient aussi passionnés que moi. C'est quand même assez génial aussi. Donc au début, j'y avais jamais pensé. Et puis après, je me suis plus posé la question.
Et alors, quel est le travail d'une attachée de presse beauté ?
Alors nous, notre travail aujourd'hui, c'est le travail d'une agence de communication. Effectivement, on a commencé avec les RP. Donc, en gros, notre travail, c'est de faciliter la vie des journalistes, de leur donner un maximum d'informations et de diffuser l'histoire de nos très chères marques engagées. Et aujourd'hui, on travaille aussi, le métier a évolué, et on travaille aussi avec l'influence. Donc là, c'est plutôt de donner un maximum de visibilité. Mais globalement, sur les RP, c'est un métier qui est encore, nous, de ce qu'on ressent, très codifié. Il faut un dossier de presse, il faut des événements dédiés, et donc il faut une expertise. Je pense notamment à toutes ces marques qui se lancent dans les RP sans savoir trop ce qu'elles font. En fait, effectivement, je comprends qu'elle soit perdue parce que c'est un métier qui est très particulier et dont il faut avoir vraiment les codes. Donc, d'où l'intérêt de faire appel à une agence qui a cette expérience et une certaine approche aussi des journalistes, des pigistes, des rédacteurs chefs, parce que finalement, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas. Ou typiquement, quand on dit à nos clients que les journalistes reçoivent 500 mails par jour, ils sont là, ah bon, mais effectivement, comment je fais pour émerger? Bah oui, justement, comment tu fais pour émerger? Bah, fais appel à une agence qui sait, remplir ces missions-là.
Et tu parlais de code, quel exemple de code tu pourrais nous donner?
Typiquement, il y a souvent des marques qui nous disent voilà, moi je voudrais faire un événement et peut-être que vous pouvez convier les journalistes, les influenceurs et tout. Nous, c'est des choses qu'on recommande pas forcément. On sait que les journalistes aiment avoir une certaine avant-première sur les informations parce que, encore une fois, c'est des personnes qui sont très prescriptrices. Et du coup, on leur dit, généralement, il faut un événement plus dédié. On mélange pas forcément les journalistes et les influenceurs.
Ouais, toujours pas.
Un peu plus.
Des événements où on mélange journalistes et influenceurs.
Honnêtement, ça dépend du format de l'événement. Ça dépend de la marque.
Aussi, oui.
De ses valeurs. Une marque qui est très trendy, très DNVB, va peut-être plus le faire. Une marque plus conventionnelle, je sais pas.
Ouais, non.
Donc, et ça dépend du format. On va moins aller sur un apéro où on fait un atelier do it yourself, plus sur de l'influence, par exemple.
D'accord. OK. Et comment est-ce que vous avez vu le métier évoluer depuis les débuts de l'agence Comme une bavarde?
Alors forcément, on a vu ça un petit peu parce qu'on a créé l'agence il y a 10 ans et quelques maintenant. Parce qu'on a fêté notre 10 ans l'hiver dernier. Enfin, cet hiver, mais l'année dernière. Donc oui, ça a pas mal évolué. Bah, ce que disait Emeline, c'est-à-dire que nous, au départ, quand on avait créé l'agence, l'idée, c'était de se dire on va travailler avec les journalistes, mais on va aussi commencer à travailler avec les blogueurs et le côté un peu digital. Parce qu'à l'époque, c'était que des blogueurs.
Oui, c'était que des blogueurs, c'est vrai.
Donc on voulait aller travailler aussi sur ces domaines-là. Donc l'influence a pris une place folle. De toute façon, ça, c'est évident. L'évolution, elle est... La plus grosse évolution depuis le début, c'est ça. Et ça, c'est sur le côté public auquel on s'adresse, parce qu'en fait, on a vu notre métier évoluer sur la façon dont on s'est adressé aux journalistes et aux influenceurs, parce que au tout début, quand on parlait aux influenceurs, on leur parlait quasiment de la même façon qu'aux journalistes. On faisait un peu cette erreur-là.
Parce tout le monde l'a faite.
Oui, c'est ça. Merci.
Tout le monde.
Mais du coup, on a vraiment changé ça au fur et à mesure, ça c'est certain, parce qu'effectivement, ce sont deux publics complètement différents, même si l'idée, c'est d'apporter l'info des clients au grand public.
Oui,
ça se fait de façon différente.
Voilà.
Donc ça a beaucoup évolué. Et ce qui a évolué aussi dans le métier, c'était la façon dont les clients vont pouvoir se servir, vont pouvoir utiliser ce qu'ils obtiennent via les journalistes et les influenceurs. Mmh. C'est-à-dire que... au départ, moi je me souviens quand j'ai l'impression d'avoir 1000 ans en disant mais quand on avait, je sais pas, un L qui tombait pour un client, on savait que derrière, ça tombe le vendredi, on savait que le week-end derrière, il allait avoir des ventes. Aujourd'hui, on a un L qui tombe, c'est génial pour la marque qui va le publier, qui va s'en servir en termes de notoriété et de visibilité, mais peut-être un peu moins en conversion. C'est un autre schéma de pensée, ça a évolué comme ça en fait. C'est-à-dire que Je crois pas du tout à ce qu'on nous dit depuis 15 ans. Parce qu'en plus, on nous dit depuis 15 ans, la presse est morte, ça c'est pas vrai. J'y crois pas, je suis désolée. Peut-être que je me trompe.
Elle s'est pas mal transformée quand même.
Mais elle, voilà, non, mais elle est pas morte. Il y a autre chose.
Non, bien sûr.
Et là-dessus, nous on le voit, la conversion est différente. C'est-à-dire qu'on convertissait peut-être en vente, on convertit plus maintenant en notoriété, en visibilité et en légitimité. C'est-à-dire que ça va se convertir en vente, mais au fur et à mesure, parce que le client va arriver en prospection. Sur des points de vente en disant, bah voilà, j'ai eu le L, j'ai eu version féminin, j'ai eu femme actuelle, tous les titres auxquels on pense tous. Et le point de vente va pouvoir référencer plus facilement. Donc ça se convertit là.
Oui, c'est ça.
Donc forcément, nous, dans les attentes des clients aussi, ça change. C'est-à-dire que, ils nous disent plus qu'on a besoin de RP parce qu'on sait que ça va nous apporter ça. Ça va nous apporter cette légitimité dont on a besoin. Mais en revanche, ils le voient plus forcément, pas tous, certains, ils le voient plus forcément en termes d'outils commerciaux.
Ouais, d'accord.
Pas directement, en tout cas.
Ouais, d'accord.
Et je me permets juste d'ajouter, on a vu l'exemple avec les DNVB qui se sont construites sur les réseaux sociaux et notamment via l'influence. Aujourd'hui, les DNVB, elles vont sur la presse. Donc,
ouais, c'est fou quand même. Hein.
Donc, comme quoi.
Parce qu'il n'y a pas si longtemps.
Comme quoi, la presse a encore du pouvoir.
Ouais,
Et sur les médias féminins, quand on regarde les chiffres. C'est encore vecteur ça peut être vecteur de SEO par exemple.
Ouais.
Puisque si on a un lien sur un marieclaire.fr, on sait que ça va aider à notre SEO. Ouais. Donc clairement, faire appel à une agence, c'est pas forcément. Effectivement, il y a 15 ans, c'était transformé en vente. Aujourd'hui, c'est beaucoup de notoriété, beaucoup d'images, mais derrière, ça a un effet sur le business.
Ouais, sur
parce
le business.
Que. Notre métier, c'est un métier d'image et de notoriété, mais aujourd'hui, la demande des marques, et on en est tout à fait consciente, c'est clairement le business. Enfin, c'est quand même le...
La notoriété.
Oui. Donc voilà, les ventes, c'est important, quoi.
C'est clair. Et alors, sur quels critères choisissez-vous d'accompagner une marque ?
Notre critère principal, c'est l'engagement. Il y a 10 ans, quand on a commencé, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait pas les marques engagées, ça s'appelait rien, je crois.
Ouais, c'était un concept assez vague.
C'était le bio en cosmétique.
Oui, voilà,
et voilà, nous, on a commencé avec une association qui s'appelle Boucle d'Ébène et c'est notre toute première cliente, Aline Tacit, qui voulait révolutionner le cheveu texturé, qui voulait juste dire aux femmes, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, de pas vous lisser, de pas vous blanchir la peau. Et donc l'engagement ça a toujours été hyper important pour nous parce que c'est important à titre perso. C'est pas du social washing, du pink washing, du green washing. On est vraiment hyper engagés nous dans notre sphère personnelle. On composte. Moi, je suis dans une association féministe. Enfin, c'est vraiment pas juste comme ça.
C'est pas de l'affichage, quoi.
Non. Ouais. Et donc clairement, le premier critère, c'est l'engagement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est une marque engagée, généralement, on pense RSE. Nous, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher.
D'accord.
On va rechercher une marque qui promeut l'inclusion, par exemple.
Okay.
Bien entendu, il y a l'aspect environnemental qui est important, mais aujourd'hui, quelle marque ne fait pas de flacons recyclables, n'est pas 100% ou d'inspiration naturelle.
Ouais.
Donc,
faut aller au-delà, bien sûr.
Et du coup, l'idée, c'est notre signature aujourd'hui, c'est la beauté consciente, c'est-à-dire qu'on va plus loin, on est beaucoup sur l'holistique aussi, et donc c'est toujours notre critère. On a beaucoup refusé de marques qui n'étaient pas assez engagées pour nous ou qui l'étaient devenues par opportunisme. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir des marques qui le sont par conviction. Et en plus, on représente généralement des femmes, faut le dire, qui sont à la tête de ces marques-là.
C'est un hasard ou c'est
purement c'est hasard, comme un hasard, mais je crois pas tant en fait. Quand on regarde la beauté engagée, drivée par les femmes.
Ouais.
Quand même.
Ouais, on est d'accord.
Et elles sont hyper inspirantes et nous c'est ce qu'on recherche puisque on en revient à ce que disait Morgane au début. On a créé comme une bavarde pour diffuser. Des vraies histoires.
Ouais, c'est ça.
Vous avez combien de marques actuellement
On a. Notre volonté, c'est clairement de rester à taille humaine. On oscille entre 15 et 20 marques.
Ouais,
jamais plus
mal, hein.
Et jamais directement concurrentes. Ouais. On va jamais. comme notre volonté, c'est de raconter des histoires,
oui.
on ne va jamais prendre des marques qui viennent toutes les deux de la même région, qui ont toutes les deux les mêmes aspérités, etc. Ouais. Donc, quand on représente un parfum de, une marque de parfum de niche comme État Libre d'Orange, on va pas aller sur son concurrent direct.
Ouais, ouais, bien sûr.
C'est ça, c'est ça fait partie aussi de nos critères.
Ouais, de vos critères. Mmh. Et c'est plutôt elle qui vous contacte, c'est vous qui démarchez. Comment ça se passe?
Alors, on a beaucoup de chance de s'être construit par réputation. Mmh. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé avec Boucle d'Ébène, qui était un de nos clients, et avec Pulpe de Vie aussi, qui était un client de Morgane, dans nos précédentes agences.
Ouais, ouais.
Donc, on a commencé avec ça. Et après, on s'est beaucoup construit par réputation. C'est une vraie chance. Après, il y a évidemment des marques qu'on a été chercher parce qu'on les aimait plus que tout. Je pense notamment à La Canopée dont j'avais eu, j'ai un gros coup de cœur pour cette marque et gros coup de cœur pour Juliette Munoz quand je l'ai rencontrée. Et donc c'est assez varié, mais on a mis du temps à assumer cette grosse spécialisation beauté. Puisque finalement, on est la seule agence aujourd'hui qui fait des RP et de l'influence, qui a une spécialité en beauté. Mmh. On l'a assumé en 2018, donc 5 ans après la création. Et en fait, ça a été le début de d'une montée un peu plus
en puissance.
Voilà.
Ok. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer dans la communication, vous diriez, Morgane?
Alors, il y a évidemment plein de choses, forcément. qu'est-ce qui est le plus compliqué? En fait, avec les marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui, on est sur des marques qui font un peu face, un peu comme toutes les marques, j'imagine, mais c'est vrai qu'on est sur des marques qui sont un peu plus, qui réagissent un peu plus vite aux aléas de trésorerie, d'actualité, de contexte.
Elles sont plus agiles.
Sont plus agiles et en même temps elles subissent de plus facilement les vagues un peu négatives. Donc c'est vrai que parfois il faut très vite remettre en question une stratégie qu'on avait établie parce que même si on se dit au début de l'année on va tout planifier pour être sûr que on sait exactement quoi faire, on sait exactement que quelques mois après on va nous dire en fait on a discuté avec des points de vente et finalement que des marques qui sont un peu plus installées et qui sont un peu plus puissantes, on va elles imposent
leur
rythme.
Ça change rien. Oui, voilà.
Sur les marques avec lesquelles on travaille, les marques engagées, on est un peu plus sur des marques encore qui doivent encore se consolider.
Qui doivent faire leur preuve.
Pas toujours, mais c'est vrai que une grande partie c'est ça. Donc forcément, on doit être très agile là-dedans. Et ça, il y a des fois, c'est un peu dommage parce qu'on sait qu'en communication, on avait le bon ton, mais c'est vrai que commercialement, après, c'est ce qu'on disait, on est un outil, donc commercialement, ils ont besoin d'autre chose, donc on va aller sur une autre partie, et ça peut être des fois un peu pas difficile à gérer, mais c'est vrai qu'on se remet en question. Après, c'est aussi
le jeu. Hein.
C'est le jeu, et puis c'est aussi ce qui nous anime, parce que si c'était tout lisse tout le temps, ça serait un peu moins drôle. les questions du calendrier aussi, tout à l'heure, Emeline disait très justement que c'est un métier très codifié, et notamment sur la presse, on sait qu'il faut qu'on envoie des infos très vite et très en amont, parce qu'il y a ce délai de bouclage, parce qu'il y a plein d'infos qui sortent tout le temps. Et quand on explique à nos clients qu'il va falloir qu'on ait des infos 3 mois, et encore 3 mois, je suis gentille, voire 6 mois avant, ça, j'ose même plus leur dire, mais on leur parle de 3 mois.
Ça leur fait trop peur.
Ça fait peur, ils n'auront jamais les produits avant, parce qu'ils nous disent, à juste titre, si j'avais des produits, je les aurais déjà sortis. Donc, ça aussi, on leur dit, on a un calendrier, ça serait sympa de pouvoir le tenir. On sait qu'en ce moment, on parle des solaires, on va nous dire, oui, moi, mes solaires, ils sortent dans 2 mois. Voilà. Donc, c'est vrai que en fait, mettre en face le calendrier des marques, qui sont des marques à taille humaine, ou un peu plus, mais voilà, qui ne sont pas des grosses marques, des grosses machines qu'on a aujourd'hui, et en face, le calendrier des journalistes, qui est avec un timing qui est différent, ça peut être un peu compliqué aussi. Et puis être et montrer aux clients que c'est notre métier, on le connaît, on sait ce qu'on fait, et leur dire... En fait, vous avez pris l'agence, vous avez embauché parce que vous savez qu'on est professionnel et qu'on connaît notre métier. Donc, laissez-nous faire sur certaines choses. C'est évidemment logique qu'il y ait une discussion entre le client et nous sur « moi, je pense que ça, c'est peut-être plus intéressant et tout, il faudrait peut-être l'écrire comme ça, voilà ». Mais encore une fois, et sans prétention aucune, mais ça fait 15 ans qu'on fait ce métier, il y a des fois, on sait que ce qu'on propose, c'est la bonne stratégie à adopter. mais on a un client en face et que et malheureusement il y a des fois
il veut pas toujours y aller.
Pas toujours et il pense autre chose et c'est normal hein. Enfin, je veux dire on a tous nos a priori aussi des fois donc il faut essayer de pouvoir dire au client ça je pense que c'est mieux pour toi sans lui dire non mais en fait t'as rien compris mais voilà c'est un juste milieu à pouvoir adopter qui est pas toujours évident ça c'est peut-être le plus compliqué à leur dire et je pense qu'on fait pareil avec des prestataires c'est-à-dire que on a nos idées on prend des prestataires parce qu'on sait qu'ils sont compétents et en même temps on a envie de leur dire moi je le ferai comme ça
donc ouais, sûr.
Et ça c'est l'humain en fait
Et quelle est votre valeur ajoutée ?
La valeur ajoutée de l'agence, je l'ai déjà dit, c'est la double compétence à la fois communication auprès de ces relais d'opinion qui sont les journalistes et les influenceurs et cette spécialisation beauté parce qu'on sait de quoi on parle quand on parle de la peau ou des parfums. Il y a des termes à utiliser en parfumerie que je vois, qui m'énervent. un parfum sucré, ça n'existe pas. aux amateurs.
Toi, c'est parce que t'as fait les Zipka.
Voilà. Ça, c'est la déformation. Mais en même temps, c'est aussi on est très reconnu pour ce sens du contenu juste. Donc ça c'est très important pour nous et c'est comme ça qu'on s'est construite parce que finalement quand on a créé l'agence, on avait moins de 30 ans, deux femmes qui arrivent sur le marché des RP.
Et puis il y avait de grosses agences à l'époque.
Il y avait des énormes agences. Ouais. Là aujourd'hui fleurissent les agences spécialisées en marque engagée avec deux femmes à leur tête, c'est assez rigolo. On est très fiers d'avoir été précurseurs là-dessus. En fait, je crois qu'on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait, mais on arrivait dans un marché très, très établi. Et on avait 28 ans. Enfin, moi, 28 et Morgane, 26. Ouais, hyper jeune.
Hyper jeune.
Du coup, il fallait forcément montrer une expertise. Ouais. Et cette expertise beauté, on ne s'en rendait pas compte, mais c'était un plus vraiment énorme. Et d'ailleurs, je parlais de la canopée tout à l'heure, elle m'a dit, moi j'ai été contactée par plein d'agences, ce qui m'a décidé, à part bien évidemment le relationnel qu'on a construit ensuite avec votre agence, c'est votre spécialisation Zipka.
Ouais, bien sûr.
C'est un vrai plus. Et après je crois que aujourd'hui l'agence elle est pas aussi puissante que certaines qui sont très installées depuis 20 ans etc ou même depuis moins longtemps mais on reste à taille humaine et on est connu pour notre engagement réel. Je crois que ce côté conviction, il se ressent vraiment. La preuve, on a mis en place le congé pathologique il y a presque 2 ans à l'agence. On est à la semaine de 4 jours et demi depuis très longtemps. Il y a plein de choses qu'on fait qui veulent dire que quand on parle d'engagement, on dit pas ça juste pour faire joli.
Vous-même, vous êtes engagé.
Exactement. Les colis qu'on envoie, on passe par notre super prestataire Hipli, c'est des colis réutilisables sans carton. Je pense qu'il y a plein de touches comme ça hyper cohérentes qui font un vrai plus. Et je crois que on nous a souvent dit qu'on était sympa. Alors je me dis, je vais le dire ici.
Et
puis honnêtement, je crois que le nom est aussi il appelle à quelque chose.
On se dit tiens, c'est bizarre.
Ouais,
pourquoi elle s'appelle comme ça.
Donc voilà et voilà globalement.
Et je crois que vous avez mis en place un accompagnement spécifique pour les startups.
Oui, alors ça c'est la grande nouveauté 2024. On en est très contente. Honnêtement, c'est quelque chose, c'est une idée qui nous est venue de nos chères marques engagées, qui souvent n'ont pas les moyens d'avoir une direction de la communication en intégrée. Et c'est clairement, c'est aussi pour ça qu'on aime autant ce métier qui change tout le temps. Mais parce qu'on se nourrit avec les journalistes, avec les influenceurs, mais aussi avec nos marques, puisque finalement, nous, on a plein de publics. Et on a aussi maintenant le public des communautés sur les réseaux sociaux, parce qu'on anime pour certaines marques leurs réseaux sociaux. En complément généralement de l'influence. Et en fait, c'est vraiment venu d'un échange où en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin dans les marques qui ont pas forcément soit les compétences, soit le budget aller plus loin dans la com un peu plus globale. Donc on a créé une structure qui s'appelle Label Cube. qui est une solution d'accompagnement dédiée à la beauté engagée. Pour le moment, c'est uniquement beauté, et parce que c'est clairement notre volonté. Et en fait, il y a plusieurs options. À la fois, on propose de faire monter en compétences sur nos domaines d'expertise. Donc, ça peut être en RP, en influence et en réseaux sociaux. Ou alors, on leur propose de carrément prendre sous format consulting en charge tout l'opérationnel de ces parties-là.
Ah,
donc, ça veut dire monter un podcast, par exemple, ou répondre à Beauty Toaster dans le cadre de plus de visibilité. Ça peut être faire de l'affichage métro, ou alors ça peut être aussi leur dire comment faire un communiqué de presse. Mais globalement, notre volonté, c'était de sortir un petit peu des codes traditionnels de ce métier-là pour ceux qui n'en ont pas le budget, parce qu'il y en a énormément dans ce marché-là. Et le truc, c'est que honnêtement, dans les marques engagées, si on n'est pas visible, on n'existe pas.
Oui, c'est clair, on est d'accord.
Je crois que tu l'avais dit très justement sur le salon I Feel Good en septembre dernier. C'est en fait, la communication, c'est souvent le parent pauvre d'une stratégie. Ça ne doit pas l'être du tout.
Mais ça l'est toujours, malheureusement.
Oui, mais en fait, ça ne doit pas l'être, parce que si vous n'existez pas, et mine de rien, ces relais d'opinion que sont les journalistes et les influenceurs, ils font beaucoup de ce secteur. D'ailleurs, le premier secteur sur Instagram, c'est la beauté.
Oui,
donc,
ça a toujours été. Ouais.
Donc, faites appel à des gens dont c'est le métier, en fait. Ou alors, faites appel à des gens qui peuvent vous faire monter en compétences. Mmh. C'est exactement l'idée de Label Cube. Donc, on dédie soit des masterclass, soit des matinées de consulting à ces marques-là.
D'accord.
Et on a commencé, et honnêtement, c'est hyper galvanisant pour nous, parce qu'on a l'impression de se réinventer et de transmettre. Et c'est hyper enrichissant pour les marques, parce qu'elles ont enfin des réponses très concrètes et surtout accessibles. Parce que les honoraires d'une agence... c'est parfois inaccessible.
Ah oui,
et là, on répond à ce besoin de plus d'accès financier.
Et cet accompagnement, du coup, il s'adresse uniquement à vos clients ?
Non, pas forcément.
Ah, d'accord, ok.
Non. Il s'adresse à toutes les marques qui souhaitent soit monter en compétences, soit qui n'ont pas le temps de mettre en place de l'opérationnel sur leur com global.
Ok, d'accord.
C'est bon à savoir. Il faut juste être engagé, puisque
c'est
notre critère.
Voilà, c'est la valeur.
Et être une marque de beauté engagée, en fait, finalement.
Voilà. D'accord. Comment voyez-vous l'avenir des RP, des relations presse, beauté et de l'agence aussi ?
Alors, je pense que les deux sont un peu liés, même si effectivement le futur de l'agence, Emeline en a pas mal parlé là. Donc je pense que ça va aller vers ce mix. On va être, en fait, en vrai, c'est le futur de l'agence, mais ça a toujours été inscrit dans notre volonté, parce qu'on a commencé en se disant on veut être des partenaires plus que des prestataires. Et c'est un peu ce qui s'est toujours passé avec nos clients, parce que ce que disait Emeline est très juste. On a des clients qui sont tout seuls, ou qui sont avec une équipe qui est un peu réduite, ou voilà, par rapport à ce qu'on peut avoir dans des grosses sociétés. Donc on a toujours été là pour discuter avec eux d'éventuelles opérations. On a toujours fait beaucoup de veille. On est très curieuse, en fait, fait beaucoup de veille en leur disant on a vu cette opération là dans le monde automobile, comment est-ce qu'on peut la réinventer pour vous. Je me souviens de Bélessa, alors c'est pas du tout le monde automobile, mais Bélessa, à qui on a dit qui est une marque 100% made in Cévennes. Il y a un vrai ambassadeur des Cévennes, qui est Julien Doré. On leur a dit mais allez faire de la distribution de flyers devant son concert. Peut-être que ça va arriver jusqu'à lui, et qu'il va en faire qui va adopter la marque et faire un peu de public relations, en fait, de la marque. Pour l'instant, ce n'est pas le moment, ce n'est pas encore arrivé, mais on y croit encore. Mais bon, elles l'ont fait, et voilà, et c'est pas du tout une OP RP.
Oui.
C'est une OP de... en fait, plus nos clients sont visibles, mieux c'est pour nous.
Toujours pareil.
Donc, ça, c'est un peu le futur de l'agence, mais je pense que c'est ce qui doit... les RP doivent se réinventer pour plein de choses, parce qu'on sait ce qui se passe en rédaction, il y a de moins en moins de monde, on sait qu'il y a des... il y a des contraintes que les journalistes ont qu'elles n'avaient pas forcément avant. Je dis elles, on y va à fond, on sait que c'est des journalistes beauté.
Oui.
Elles n'avaient pas avant, donc il faut répondre à ce genre de contraintes. Et en même temps, il y a toujours ces codes-là, mais il faut réussir à réinventer ça. Mais je crois qu'il y a des choses qui ne vont pas changer, c'est-à-dire que la rencontre fera toujours plus qu'un simple mail, que le relationnel est toujours là. Et d'ailleurs, si on parle de futur, il y a forcément cette histoire d'intelligence artificielle qui arrive dans le game. Là.
Ouais.
Mais je pense que c'est un outil, si c'est bien utilisé, c'est toujours la même chose, c'est un outil qui peut nous permettre de gagner du temps pour avoir justement encore plus ce côté humain, parce que finalement, notre métier, c'est de l'humain. Ça va être d'avoir du feeling avec les marques, parce que c'est aussi comme ça qu'elles nous choisissent. Il y a le feeling qui compte beaucoup, même si on a des résultats qui sont... exceptionnel. on a un feeling qui passe, donc ça c'est forcément obligatoire. Mais il y a aussi ce feeling avec les journalistes. Il y a des journalistes avec qui ça se passe très bien depuis le début et c'est très facile et c'est quelque chose qu'il faut entretenir parce que c'est comme toutes les relations, il faut l'entretenir. D'autres avec qui c'est moins le cas, mais ça on va du coup les retrouver plus sur le côté contenu où là on sait qu'on a ce qu'il faut.
Ouais.
Mais du coup, le métier, il évolue. Je pense qu'il va évoluer avec ce genre d'outils. On l'a vu. Enfin, au tout début, nous, on envoyait nos communiqués de presse par mail, 50 par 50. Parce que c'était comme ça. Maintenant, on a des outils pour le faire qui nous permettent de gagner du temps. Bah, ce temps gagné, il va nous permettre. On imprimait des mails, enfin bon, ouais. des trucs de l'ancien temps.
Oui, de l'ancien temps. Hein.
Mais tous ces outils dont on nous parle et qui font un peu peur parfois aussi, si on les utilise bien, je pense, peuvent nous permettre de gagner du temps et d'augmenter la partie humaine encore.
Je suis d'accord avec toi.
Le futur, et c'est peut-être très bisounours de ma part, mais je le vois comme ça, se me dire... On va avoir de plus en plus de technologies. Il faut se servir de ça pour gagner.
Ce sont des outils.
Oui, c'est ça. C'est que de l'outil. Ça peut pas remplacer l'humain.
Ça va juste nous
compléter.
Oui, exactement.
Donc voilà.
Je suis d'accord.
Donc je pense que le futur des RP beauté, ça va être un peu ça. Peut-être qu'on aura des communiqués écrits sur ChatGPT, mais
Tu seras quand même obligé de repasser derrière.
Pour tous ceux qui ont utilisé un jour
ChatGPT, on sait très bien qu'on ne peut pas envoyer quelque chose qui est fait par ChatGPT.
Mais après, il y a tout plein d'outils qui peuvent nous permettre de. Et je pense, on parlait tout à l'heure des marques qui ont des soucis de délai, par exemple. Peut-être qu'avec des outils de technologie, d'intelligence artificielle, on va pouvoir avoir les visuels des marques, des produits qui vont sortir un peu avant.
Oui.
Voilà, tout ce genre de choses, ça peut permettre d'avoir des choses qui sont un peu plus jolies que des maquettes 3D.
C'est ça.
Mais qui sont utilisables par les journalistes, mais comme ça on va pouvoir gagner du temps aussi.
Enfin voilà.
Exactement. Moi je pense que le futur DRP peut devenir encore plus relationnel. C'est quelque chose qui me titille un peu plus encore.
Cool. Et pourquoi avoir choisi ce nom comme une bavarde?
Alors là, c'est une dédicace à mon petit frère, Quentin, qui en brainstorming, on était avec lui en brainstorming et le pitch, c'était, on voulait que ça commence par com, C-O-2-M-E à la française.
Bien sûr.
C'était le seul truc qu'on savait.
Ouais. Comme pour communication, c'est ça?
Oui,
ouais.
mais pas C-O-M apostrophe.
Non, non.
Ça, c'était pas...
Ouais, vous vouliez pas.
Parce qu'on est très psychorigide sur l'orthographe, donc le... Enfin, voilà, C-O-2-M-E. Et après, pas vraiment de pitch.
Ouais,
en fait, le brainstorming, il a été hyper rapide, puisque je sais pas pourquoi on en est arrivé là. On est arrivé sur nos bulletins de notes. Et Morgane et moi, enfin plus moi que Morgane, elle était plus sage que moi, mais moi j'avais beaucoup bavarde sur mon bulletin de notes. Et à un moment on avait songé à pipelette, mais c'était un peu trop péjoratif.
Ouais.
Et en fait, comme une bavarde, ça s'est imposé. Enfin, ça a été dit par lui.
C'était évident, quoi.
C'était une évidence. Et en plus, on a bien aimé l'acronyme, qui est CUBE.
Ouais,
alors,
cube.
Beaucoup de gens disent CUB. C'est assez rigolo.
Ah ouais, c'est rigolo.
Mais non, c'est CUBE.
Cube ouais.
Donc, il y avait un jeu de mots avec Join the CUBE, Join the Club. Enfin, voilà. En fait, CUBE, il y a plein de...
Oui.
On peut le décliner à fond. D'ailleurs, on l'a décliné avec Label Cube, parce que Label Cube, ça s'écrit L-A-B-E-2-L-E pour une référence à la beauté et une référence aussi au côté label qui renvoie à la marque engagée et le mot cube. Et donc voilà l'histoire. Franchement, on s'est pas pris la tête très longtemps.
Ça
a été le seul pitch comme bien écrit.
Et quel métier auriez-vous exercé si vous n'aviez pas été attachée de presse?
Alors, c'est le rêve de petite fille ou je sais pas. Alors, je sais qu'Emeline, je vais parler pour toi, je sais qu'elle a toujours voulu, elle aurait voulu être maîtresse et c'est quelque chose qu'elle fait même encore maintenant très bien parce qu'elle transmet plein de choses et l'équipe pourrait le dire à ma place. Donc, le côté maîtresse, mais je sais que maintenant, tu voudrais être, si tu te reconvertissais, ça serait floricultrice.
Ouais.
Donc, et c'est pour ça qu'il y a plein de plantes dans le bureau.
Métier méconnu, mais.
Mais ouais. Plein de plantes dans le bureau. Oui, oui. On est, voilà, on est entouré de verres.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Et de vrais verres.
Ouais, ouais.
Et moi, je. Alors, j'avais pas mal d'idées en tête. L'hôtellerie m'a toujours fait rêver, honnêtement. Je me souviens d'un voyage avec mes parents où. Ce qui me passionnait, c'était de discuter avec le dirigeant de l'hôtel. Je trouvais génial.
T'avais quel âge ?
J'avais, c'était l'année de mon bac, donc
ah oui,
16
donc
ans.
Ah oui, donc grande déjà. Ouais,
ouais, ouais. Ouais. Mais je trouvais ça génial, sa vie. Vraiment, ouais. Alors, bon, après, j'ai compris que les hôteliers travaillaient bah, quand toi, tu te reposes.
C'est ça.
C'est moins sympa, c'est moins mais voilà, l'hôtellerie m'avait beaucoup plu. Et aujourd'hui, je pense que ça serait quelque chose, enfin, un peu entre les deux, mais le côté architecte dans la ville, enfin, ouais. Voilà, j'ai quelque chose qui me... depuis longtemps, ouais, mais ouais. Voilà, ça serait plus ça.
D'accord.
Mais c'est complètement juste du rêve, quoi, pour l'instant. Je m'imagine pas encore oui, arrêter Cube, loin de là, mais ouais. Voilà.
Bon.
Donc, appel à un hôtel engagé, RSE, qui a envie d'une agence vraiment convaincue.
Oui, parce qu'en plus, j'allais dire...
Il y a une passion pour l'hôtellerie. Oui, allez-y, venez ici.
Ouais, vous pourriez ouvrir aussi l'agence à des clients qui sont pas du tout dans la beauté.
La signature, c'est marque engagée. Ouais, ça, elle a toujours été.
Ça. Donc, ça peut être de l'hôtellerie.
Forcément, on est plus légitime en
ouais,
beauté.
En beauté. Mmh.
Mais aujourd'hui, je crois qu'on est légitime aussi hors beauté. On accompagne par exemple les bougies de charroux depuis quelques années maintenant. Comme son nom l'indique, ce sont des bougies mmh. qui viennent de la ville de Charroux en Auvergne, des bougies artisanales. Et on est très très fiers de cette marque qui plaît énormément à sa communauté et qui est à la fois simple, mais dans le très très bon sens.
Ouais.
Très bon sens du terme, et qui revendique cet artisanat et ce savoir-faire français qui est aussi inhérent aux marques engagées. Donc
c'est cohérent.
La signature de l'agence, c'est clairement les marques engagées, et donc prochainement, un hôtel, apparemment.
Bah, y en a, hein.
Voilà. Mais en tout cas, le conseil, c'est juste quand on se lance dans la com, il faut vraiment faire... faut pas faire ça au hasard, quoi.
Ah ouais,
c'est, y en a beaucoup qui disent, vas-y, je vais prendre un magazine, je vais contacter... non. Donc, soit vous faites appel à Label Cube pour monter en compétences, soit vous faites appel à Label Cube parce que vous n'avez pas le temps, enfin bon, bref, ou soit vous faites appel à Comme une Bavarde si vous voulez une relation plus dans la durée. Bref, ouais. Venez à nous, quoi. On vous attend avec impatience.
Et vous avez un site ?
Bien sûr.
Ouais.
www.commeunebavarde.com.
Super.
Qui a été complètement refait à neuf pour 2024. Donc voilà. Et on a aussi nos réseaux sociaux où
bien
on
sûr.
Suit plus nos actus et vous verrez qu'on est sympa. Parce qu'on a notre promesse d'être sympa. Enfin, j'espère. Et TikTok aussi.
Ah oui,
TikTok, on s'amuse ouais. un peu plus avec l'équipe ouais. et les cubettes sans qui Comme une Bavarde d'ailleurs n'existerait pas. Donc,
ouais, c'est sûr. Oui, parce que vous n'êtes pas que toutes les deux.
On n'est pas que toutes les deux. Mmh. On a une équipe derrière qui nous permet d'être efficace.
Ouais, petite équipe qui fait combien de personnes ?
On est entre 5 et 6.
Ouais, c'est pas mal.
Donc on reste à taille humaine,
ouais.
mais ça nous permet d'avoir les résultats dont bien ont sûr. Besoin nos chères pépites engagées.
Génial. Merci Emeline. Merci
Morgane. Merci.
C'est déjà fini. Eh oui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Au fait, pendant que j'y pense, parlez de Beauty Toaster à au moins 2 personnes de votre entourage et demandez-leur de s'abonner à Beauty Toaster via leur plateforme de streaming préférée. Si vous désirez soutenir la production du premier podcast beauté en français, je vous donne une astuce simple, gratuite et ô combien efficace. Laissez un avis et des étoiles sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et sur toutes les plateformes où cela est possible. Ça n'a l'air de rien. Mais ça permettrait à Beauty Toaster d'amplifier sa notoriété et de rassembler toujours plus d'auditrices et d'auditeurs. Merci et à très vite.